rappel sur l'actualité.
Banque Atlantique, grandir ensemble.
h à Paris, 9h en temps universel. RFI vous informe. Bonjour Fabien Albert.
Bonjour Juan, bonjour à toutes et à tous. Grande manifestation hier soir en Géorgie. Des milliers de personnes ont battu le pavé en réaction à un nouveau pas vers l'est du pouvoir pro-russe qui reporte jusqu'en 2028 le processus de rapprochement avec l'Union européenne. Dans ce journal également, le Tchad tourne le dos à la France, partenaire historique. N'Djamena a mis fin à un accord de défense liant les deux pays depuis l'indépendance. Et puis reportage dans le quartier de la Torre à Valence en fin de journal, un mois après les inondations qui ont ravagé le sud de l'Espagne. Tbilissi, épicentre de nombreuses manifestations hier en Géorgie, réaction de la foule après l'annonce du Premier ministre pro-russe de repousser le processus de rapprochement avec l'Union européenne à 2028. Au cri de « Roussebo » que vous entendez derrière moi littéralement, esclave des Russes, la décision est présentée comme une réponse à une résolution de l'UE adoptée ce jeudi dénonçant la dégradation de la démocratie dans cette ancienne république soviétique. Mais pour l'opposition, en réalité, cela apparaît comme l'objectif initial du gouvernement, rompre les liens avec le camp occidental, Régis Janté.
La décision se veut une réponse à la résolution européenne, considérant notamment comme frauduleuses les élections parlementaires du 26 octobre. Mais selon l'opposition, le parti au pouvoir n'attendait que cela pour rompre avec l'Occident et revenir dans l'orbite de la Russie. La décision suscite beaucoup de réactions. Une bonne partie des 3,7 millions de Géorgiens étant convaincus que le pays est en train de basculer dans un régime autoritaire inspiré de la Russie. 78 diplomates ont signé une lettre dénonçant la sortie du chemin européen et la violation de la Constitution qui dispose que les institutions du pays doivent œuvrer à l'intégration avec l'UE et l'OTAN. Une manifestation s'est réunie devant le Parlement, sitôt après l'annonce du Premier ministre, un rassemblement marqué par des affrontements avec les forces de l'ordre, l'érection de barricades et l'incendie de poubelles, ce qui est nouveau dans la série de protestations que le pays connaît depuis 7 mois. À 2h du matin, la police a entrepris de disperser la foule, procédant à de nombreuses arrestations, mais ne parvenant pas à rétablir le calme. Régis Janté, Tbilissi, RFI.
Et ce matin, le ministère géorgien de l'Intérieur indique avoir procédé à 43 arrestations lors de cette manifestation. C'est un tournant historique dans les relations franco-tchadiennes. Par communiqué hier soir, le ministre des Affaires étrangères et porte-parole du gouvernement tchadien, Abderrahmane Koulamallah, a annoncé mettre un terme à l'accord de défense avec Paris. Un nouveau revers pour la diplomatie française au Sahel après les retraits forcés du Mali, Burkina Faso et Niger. Le Quai d'Orsay n'a pas encore officiellement réagi à cette décision, intervenue quelques heures seulement après le départ de N'Djamena du chef de la diplomatie française Jean-Noël Barrot. Correspondance de Carole Valade.
Tombée en pleine nuit, l'annonce a fait l'effet d'un coup de tonnerre dans le ciel djaménois. Quelques heures à peine après la fin de la visite au Tchad du ministre français des Affaires étrangères Jean-Noël Barrot, qui n'a rien laissé paraître au sortir de sa rencontre avec le président Mahamat Idriss Déby, la France doit considérer désormais que le Tchad a grandi et mûri, que c'est un État souverain et très jaloux de sa souveraineté, a simplement glissé son homologue tchadien Abderrahmane Koulamallah, qui, joint par RFI, parle d'une décision mûrement réfléchie, annoncée très symboliquement ce 28 novembre, qui marque le 66e anniversaire de la proclamation de la République du Tchad. Sans préciser s'il s'agit d'une décision unilatérale ou concertée, le ministre laisse entendre qu'elle devrait entraîner un départ du millier de soldats français stationnés dans le pays. Leur maintien serait contradictoire, dit-il, tout en assurant que ce retrait se fera selon les termes et dans les délais prévus par l'accord de défense. Carole Valade, N'Djamena. RFI.
Une présence française contestée aussi au Sénégal. Les 350 soldats français sur place ne devraient plus y rester longtemps, à en croire les déclarations du président sénégalais dans les colonnes du Monde. Bassirou Diomaye Faye a déclaré qu'il n'y aurait bientôt plus de soldats français dans son pays. La France sur le plan intérieur, Michel Barnier est sur un siège éjectable. Le Premier ministre à la merci d'une motion de censure de la gauche et de l'extrême droite. Le Rassemblement national qui a tout moment on peut défaire le gouvernement. Alors Michel Barnier s'efforce de satisfaire les exigences de Marine Le Pen. Hier, il s'est prononcé, comme le voulait le RN, sur l'abandon d'une hausse des taxes sur l'électricité ou encore sur une baisse de l'aide médicale d'État pour les sans-papiers. Pas sûr toutefois que ce soit suffisant, Aurélien de Vernois.
La réponse de Marine Le Pen est lapidaire. Michel Barnier a jusqu'à lundi pour faire mieux. Toutes les lignes rouges budgétaires fixées par la patronne du RN ne sont en effet pas effacées. La censure est donc toujours sur la table et c'est au Premier ministre de poursuivre les efforts, explique le député Rassemblement National, Philippe Ballard.
Nous, on a fixé 6 points qui sont des lignes rouges. Donc on verra ce que met Michel Barnier dans ce texte final. Rendez-vous lundi à 15h.
À gauche, on regarde ce pas de deux de Michel Barnier avec distance, à l'image de Jean-Luc Mélenchon.
On peut penser qu'il essaye de cette manière de se concilier les bonnes grâces du Rassemblement National. Va-t-il y parvenir, c'est ce que nous allons voir.
Le leader insoumis reste toutefois persuadé que le gouvernement est condamné et qu'il faut rappeler les Français aux urnes.
Dans 6 jours, il n'y a plus de gouvernement. Puisqu'on ne peut pas faire de nouvelles élections législatives, alors faisons une élection présidentielle. C'est le seul moyen qu'on a de voter.
Pas question de présidentielle anticipée du côté de l'alliance gouvernementale, mais un relan de division face à la main tendue au RN. Si du côté de la droite, on se dit plutôt satisfait, l'aile gauche de la Macronie, elle, grimace. Un député confie, on risque d'avoir quand même la censure et en plus, le déshonneur.
Aurélien Devernois dans les couloirs de l'Assemblée nationale. Donald Trump promet d'augmenter les droits de douane sur les importations aux États-Unis une fois à la Maison-Blanche. Le 20 janvier prochain, une taxe de 25% sur ces importations provenant du Canada et du Mexique. Augmentation aussi à prévoir avec la Chine. Cela fait craindre aux Américains et aux entreprises une augmentation du prix des produits. Les marchés financiers, eux, attendent de voir Édouard Maille.
Après l'annonce de Donald Trump d'augmenter les frais de douane, les actions en bourse de plusieurs entreprises automobiles ont chuté. Ces industries importent des pièces et parfois des voitures entières des pays voisins, pays qui seraient concernés par l'augmentation des frais de douane. Et la valeur du peso mexicain et du dollar canadien a baissé face au dollar américain, signe de l'inquiétude des marchés financiers. Mais le reste des cours boursiers n'a pas été touché. La raison, certains responsables du monde de la finance ne sont pas inquiets, explique le quotidien de référence pour l'économie, The Wall Street Journal. Les marchés financiers se sont habitués aux déclarations de Donald Trump et préfèrent désormais attendre de voir les politiques concrètes. Et ces annonces sont aussi vues comme un moyen pour Donald Trump de faire pression sur les pays partenaires sur le plan diplomatique. Mais il y a un consensus sur les risques d'une hausse des frais de douane. L'augmentation pourrait se répercuter sur l'inflation. Alors que Donald Trump avait fait la promesse pendant sa campagne de baisser le coût de la vie, la principale préoccupation des électeurs. Édouard Maille, Atlanta, RFI.
Et puis, il y a tout juste un mois, des torrents d'eau déferlaient sur le sud de l'Espagne, principalement dans la région de Valence. 30 jours après la catastrophe, le bilan encore provisoire est d'au moins 230 morts dans le quartier de la Torre à Valence. Pourtant, l'un de ceux où le nettoyage des rues est le plus avancé, la vie n'est pas revenue à la normale. Reportage de notre envoyé spécial, Pauline Glaise.
L'un des rideaux de fer, plié par la crue, reste baissé. Mais l'épicerie de Sundas est l'un des rares commerces à avoir rouvert à la Torre.
Il me faudrait plus d'étagères et de réfrigérateurs. Et puis on n'a pas d'argent pour tout acheter, donc on n'achète que des fruits pour tenir le coup. Pour le reste, en face, ils donnent des choses aux habitants.
En face, sur la place de l'église, une aide aux sinistrés est centralisée depuis l'inondation. Marcé, une volontaire, décharge des caisses de plats chauds.
Beaucoup de gens ne travaillent toujours pas, les commerces sont détruits et dans beaucoup d'immeubles, les ascenseurs ne fonctionnent pas. Les personnes âgées ne peuvent pas descendre, donc on fait une livraison à domicile.
Dans la file qui se forme devant le Barnum, Santiago vient chercher à manger pour sa famille et un sandwich avant d'aller en cours.
On a de la nourriture à la maison, mais il nous manque des ingrédients. Le supermarché est fermé. Je suis allé plusieurs fois à celui de San Marcelino et il n'y a rien. Pas de lait, pas d'œufs. Même si l'eau n'est pas arrivée là-bas, ils sont dépassés.
José Vicente continue à aller au supermarché de l'autre côté du pont, quitte à s'armer de patience.
8 bus étaient complets. Il a fallu attendre le 9e.
Sur le parvis, les médicaments ne sont plus distribués. Une pharmacie a rouvert depuis peu. Pauline Glaise, La Torre, RFI.
Et en réaction à cet épisode climatique exceptionnel, l'Espagne a décidé d'instaurer un congé payé climatique. 4 jours sans travail en cas d'alerte liée à un risque météo. Une mesure adoptée par le Conseil des ministres. Plusieurs entreprises ont été très critiquées car elles ont demandé à leurs salariés de rester à leur poste lors des inondations, malgré une alerte rouge de l'Agence météorologique nationale. Il est quasiment 10h10 ici à Paris, 9h10 en temps universel. Bonne fin de matinée à l'écoute de RFI.